Si je vous dis sextech, vous pensez sans doute sex toys. Et pourtant, la sextech, ce sont des innovations qui peuvent prendre plusieurs formes et pas seulement la forme d'objets connectés. Alors bien sûr, il y a des sextoys, mais la sextech, c'est aussi des plateformes d'éducation sexuelle, des podcasts, des sondes périnéales ou encore des applications qui permettent aux femmes d'échanger avec des sages-femmes parmi bien d'autres solutions. Derrière ces innovations, c'est une autre manière d'envisager la sexualité, pas seulement sous l'angle du plaisir, mais aussi sous l'angle du bien-être, de la santé et de l'éducation. L'association Sextech for Good fédère plus de 40 startups de la sextech qui veulent se mettre au service d'une sexualité positive, plus inclusive, et globalement d'une libération de la parole sur les sujets de sexualité. Christelle Bonny en est la présidente, elle sera présente à Castres pendant l'Université de la e-Santé les 27 et 28 juin. Elle y parlera de la sextech et du rôle du numérique pour la santé des femmes. C'est donc le sujet qu'on a choisi d'explorer dans cet épisode du podcast de l'Université de la e-Santé. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast de l'Université de la e-Santé. On va parler du rôle du digital dans la santé des femmes. Je dis bien santé, et c'est volontaire, parce que la sextech, c'est pas que du sexe, c'est pas que de la tech, et c'est avant tout de la santé. Tu peux nous dire pourquoi ?
Ouais, oui, et merci de le présenter comme ça, parce que c'est rarement que c'est abordé de cette manière. Et si on reprend la définition justement, tout simplement de l'OMS, la santé sexuelle fait partie de la santé globale et de notre bien-être. Et donc, c'est vrai que la sextech, souvent, quand on en parle, on entend alors sexualité, technologie. Donc, on va rapidement faire un biais et raccourci très vite vers les sextoys connectés. Mais on oublie que c'est aussi de la santé sexuelle, de l'éducation à la sexualité. Et puis aussi des questions, on va en parler sans doute, d'inclusion, d'humanité, puisqu'on parle de la sexualité des seniors ou des personnes en situation de handicap.
Et alors, toi, tu as fondé l'association Sextech for Good. Quel était le point de départ et l'ambition ?
Alors, j'ai créé Sextech for Good en 2018, à la fin de mon expérience entrepreneuriale, où j'avais créé la première start-up en France qui portait ce nom-là d'être la première start-up de la sextech avec un toy connecté. Et c'est vrai que le chemin avait été assez compliqué et que je n'avais pas envie d'abandonner tout ce que j'avais appris et un peu le combat que j'avais mené, puisqu'il était devenu très, très militant, puisque j'avais vu à quel point c'était compliqué de parler de sexualité, à quel point le sujet était encore tabou et à la fois à quel point il était aussi politique et à quel point il traitait des sujets de société qu'on aborde encore peu pour toutes ces questions justement de tabou et d'éducation. Et je me suis dit, bon, allez, il faut que je continue, il faut que je donne un sens à tout ça. Et j'ai voulu poursuivre mon engagement en créant un collectif et en me disant, peut-être, à plusieurs, on va continuer à prendre la parole et collectivement essayer de convaincre que c'est un secteur d'innovation à impact sociétal. C'est pour ça qu'on s'appelle Tech for Good et qu'on a besoin d'être connu et reconnu comme tel et qu'on a besoin d'apporter un peu plus de soutien à tous les entrepreneurs qui se lancent et qui réfléchissent à toutes ces problématiques-là. Voilà, qui derrière, il y a de la santé, il y a de la santé mentale, il y a du bien-être, du plaisir et de la joie et une société plus inclusive.
Alors, on va reparler un peu plus tard de ces entrepreneurs en donnant des exemples de start-up et d'innovation dans la sextech for good. Mais avant ça, tu parlais de tabou. Le sexe en général, c'est de moins en moins tabou. La tech, évidemment, beaucoup moins. Les sextoys, on en a parlé, c'est l'image qui vient en premier. Ça ne l'est pas vraiment. En tout cas, peut-être dans une partie de la société, ça l'est encore. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus démocratisé. Pourquoi est-ce que toi, tu as l'impression que la santé sexuelle des femmes et cet aspect santé, justement, c'est encore tabou et on n'en parle pas?
Je crois qu'on parle beaucoup on a l'impression qu'on parle beaucoup de sexualité et de sexe parce que voilà, c'est dans notre univers et que c'est très médiatisé. Pour autant, est-ce qu'on a une vraie conversation sur le sujet de la sexualité? Je crois pas. Quand on regarde la pauvreté de l'éducation à la sexualité, alors que ça fait 20 ans que c'est prévu dans la loi et qu'on a globalement que 17% des collégiens et lycéens qui auront la totalité des heures qui sont prévues au programme, on voit bien qu'il y a vraiment un grand écart entre ce qu'on perçoit être de la détabouisation de la sexualité et la réalité de ce qu'on vit. Si on prend la santé des femmes, on le constate, beaucoup de femmes, même si on prend par exemple des sujets comme la ménopause, qui est un sujet universel que toutes les femmes vont connaître à un moment de leur vie, on ne s'en parle pas. Et donc, ça reste un sujet tabou, on connaît très mal les symptômes. Comme on parle très peu, par exemple, ou très mal, des symptômes qui sont différents, on sort de la sexualité, mais par exemple des attaques cardiaques ou des choses comme ça qui font que on est moins en forme, on s'occupe moins de soi et on passe à côté de maladies ou de prévention. Enfin, on ne parle pas.
Dans les faits et dans les chiffres, en fait, tu m'avais donné quelques chiffres qui étaient assez édifiants finalement et qui sont méconnus, qui englobent différents aspects de la santé sexuelle, en particulier des femmes. Tu peux nous donner quelques-uns de ces chiffres ?
Bah, c'est une femme sur trois qui souffre de maladies chroniques gynécologiques. C'est une femme, un couple sur quatre qui va souffrir d'infertilité. C'est 35% de femmes qui vont préférer, par exemple, voilà, à un moment donné, démissionner plutôt que de cumuler un parcours PMA et un emploi, parce que on continue de faire de ces problèmes-là des problèmes de femmes et des problèmes personnels et pas des problèmes de société. Donc, on n'en parle pas dans les entreprises, on n'adapte pas encore, et on n'ose pas. Il y a beaucoup de chiffres, je ne sais plus lesquels exactement on avait évoqués, mais il y a aussi le fait que les femmes meurent plus des maladies cardiaques parce qu'on connaît moins les symptômes et que parce qu'on a des biais de genre, on fait moins attention à nous, parce que 81% des femmes s'occupent en priorité de la santé des autres et de leurs proches plutôt que de la leur. C'est tout ça qui fait que globalement, plus cette médecine qui reste genrée, puisque pendant longtemps la médecine a été une médecine des hommes et pas une médecine des hommes avec un grand H de manière universelle. Et donc, c'est vrai qu'on est encore sur des parcours d'errance thérapeutique de 7 ans dans le cadre de l'endométriose, avec encore pas de solution au bout, et que l'année où est sorti le Viagra, c'était l'année où on a eu la première imagerie complète du clitoris. Donc, on voit bien qu'il y a 20 ans d'écart et que voilà, on a marché sur la lune avant de s'intéresser au plaisir féminin. Donc.
Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette année-là, on a beaucoup plus parlé du Viagra que de l'imagerie du clitoris.
Oui. Et le clitoris est revenu un peu sur la devant de la scène il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut dire que dans les manuels d'éducation à la sexualité, en SVT, le clitoris est réapparu dans un manuel en 2017.
Il avait disparu, ou il n'avait jamais été là.
Il avait disparu, oui. Alors, comme dans l'histoire, dans le clitoris, il est connu depuis très, très longtemps. Mais quand on a commencé à se dire que, effectivement, il n'y a pas du tout de lien entre le clitoris et la procréation, puisque tant qu'on pensait qu'il y en avait un, c'était assez encouragé, le plaisir. Là, c'est devenu un non-sujet. Et à l'époque, il a disparu même des planches d'anatomie, les fameuses Grey's Anatomy, qui étaient les planches de référence, et le mot est disparu du dictionnaire aussi. Et donc, s'en est suivie une longue période noire et cachée pour le clitoris avant qu'on en reparle.
Ouais, donc on rejoint finalement ce que tu disais tout à l'heure sur ces principes d'inclusion qui sont essentiels et qui font partie, en tout cas, de la revendication et du combat de, si combat c'est le bon mot, de Sex Tech for Good.
Oui, c'est un combat, c'est vrai, on peut le dire. Et qu'aujourd'hui, la sexualité, on le dit, c'est le dernier bastion un peu du patriarcat, parce que il y a ces rôles de genre qui nous enferment dans des normes et dans des injonctions. Et on le voit bien, en fait, qui nous empêchent d'être vraiment libres et qui créent des biais de genre, qui ont un vrai impact aussi sur nos vies et sur la santé. Et c'est une nouvelle révolution qui est en train de se jouer, je pense. On a beaucoup dit ça, mais c'est vrai que la révolution de l'intime, de se dire et de cette réappropriation de son corps et de son plaisir, notamment pour les femmes, parce que tout le monde doit être des sujets complètement autonomes et indépendants sur cette question de la sexualité. Mais pour faire les bons choix pour soi, il faut aussi se connaître et il faut avoir une curiosité et une ouverture d'esprit que la société ou notre éducation ne nous permet pas toujours.
Il y a un rôle donc d'information qui est très important. Précisément, ça passe par quels canaux au sein de Sex Tech for Good? En fait, quels sont les médias que vous investissez ou les moyens que vous avez, soit par des solutions, par des applications? Et quand je dis vous, c'est toi, mais c'est également les startups et les entrepreneurs qui ont rejoint le collectif, pour favoriser l'information au sujet de la santé sexuelle des femmes.
C'est vrai que, alors, dans le collectif, maintenant, on peut dire qu'il y a plus de 40 startups. Donc, ça fait plus de, entre 60 et 70 entrepreneurs qui, au quotidien, s'investissent sur ces sujets-là, à la fois, encore une fois, dans la santé, l'éducation et le plaisir. On a des actions collectives. On organise un sommet. On organise régulièrement des webinaires. Là, on en fait un sur, justement, la sexualité, le handicap, où on va vraiment aussi parler du validisme, parce que le premier problème, en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'un corps désirable? Qu'est-ce qu'un corps désirant? Et comment le poids des normes sur ces sujets-là. Donc, on essaye de faire ces actions collectives-là, de prendre des contacts avec les investisseurs, avec la BPI, avec les médias régulièrement. Et encore, merci à l'Université de la e-santé de nous donner une tribune, parce que c'est vrai que ça reste assez rare. Et puis après, chaque entrepreneur, à sa manière, porte le message, puisqu'en fait, ce sont tous des entrepreneurs qui s'engagent dans la sextech avec des valeurs et qui prônent une sexualité positive et qui militent pour une société plus joyeuse et plus inclusive, plus libre et plus égalitaire. Donc, c'est vrai que quand on a des vulvae qui lancent des applications pour parler des douleurs vulvaires, elle met en avant un sujet dont on n'avait jamais parlé jusqu'à présent et qui pénalise des millions de femmes qui vivent avec ces douleurs-là. Quand on a des plateformes qui s'intéressent à l'éducation, à la sexualité, quel que soit l'âge, que ce soit Climax pour les adultes ou Silex pour les ados ou Edoni, par exemple, pour les couples, eh ben, oui, c'est du militantisme parce que c'est de dire, OK, on a besoin de se connaître, on a besoin de connaître nos corps et on a besoin, et ça fait partie aussi de la protection, de savoir poser ses limites et puis de savoir choisir sa sexualité, c'est ça la liberté. Quand on a des gens qui font des cosmétiques, qui font des lubrifants comme le Bon Mojo ou d'autres marques comme Goliath, c'est des gens qui prônent aussi et qui mettent en avant sur le devant de la scène et dans la communication une vision encore une fois très positive du corps et de la sexualité. Donc, c'est chacun dans leur entreprise aussi qui font avancer et qui bougent les lignes.
Tu as mentionné plusieurs startups ou solutions tout à l'heure. L'une de celles qui est les plus connues, même quand on ne s'intéresse pas de près à la sextech, c'est Vulvae, parce que le nom revient quand même assez souvent. Tu peux nous dire un peu comment ces solutions, ces outils, ces applications fonctionnent, en prenant quelques exemples, pour qu'on comprenne bien le rôle du digital dans la promotion de la santé sexuelle des femmes?
Alors c'est vrai que des applications comme Vulvae, elles vont permettre de suivre des programmes et aussi de se connecter et de faire connecter en fait des patientes et des médecins. C'est aussi des startups qui apportent de la connaissance à des fois des médecins sur des sujets qui jusqu'à n'étaient pas adressés, dont on parlait pas. Donc c'est vraiment des applications pour suivre. Déjà, la première vertu, c'est d'avoir de l'information, de créer des communautés, de dire aux femmes, voilà, vous n'êtes pas seules. Il y a un troisième niveau dans le numérique qui va être hyper important pour la suite, c'est d'avoir des datas. Parce qu'aujourd'hui, le problème d'être aussi en retard sur la santé des femmes, c'est de ne pas avoir de data. Donc, c'est vrai qu'on en a besoin. C'est aussi des startups qui, avec des remontées de données, par exemple, font aussi, au-delà de la maladie, des études sur les coûts. Qu'est-ce que ça coûte réellement aussi aux femmes de se soigner par ces pathologies? Donc, ça veut dire comment demain, le système de soins les prendra peut-être, on espère, mieux en charge. C'est valable aussi, ces mêmes applications sur l'endométriose, comme des Luna, qui permettent aussi d'avoir des diagnostics en ligne avec cette vraiment envie de réduire ce temps d'errance thérapeutique qui, voilà, quand on souffre pendant 7 ans sans avoir de diagnostic, c'est juste l'enfer. Hein. Les douleurs d'endométriose, ça peut vous faire vous évanouir et vous clouer au sol. Donc, c'est vrai que c'est vraiment important. Il y a des applications comme MySLife aussi qui vont créer des communautés de femmes et d'expertes pour que les femmes s'autorisent à poser toutes ces questions que justement elles ne posent jamais ou qu'elles poseraient à leurs copines. Mais bon, là, on n'a pas toutes les chances d'avoir une copine gynéco. Et donc là, c'est de se dire, on va oser. Et c'est vrai que c'est le premier niveau souvent, c'est de se dire, OK, donc je suis normale. Tout le monde se pose ce type de questions-là. Je ne suis pas la seule. Donc ça, déjà, on réduit un petit peu la pression. Et puis surtout, on trouve des solutions. Et elles permettent, par exemple, aussi d'avoir accès rapidement à des soignants pour être bien orientées et bien conseillées. Donc, il y a plein de niveaux différents, que ce soit de l'information, du suivi, de la consultation. Demain, on espère du traitement aussi, hein, parce qu'il y aura des systèmes de digital therapeutics. On voit bien qu'aux États-Unis, certaines applications de suivi de règles sont certifiées au même titre que des applications, des pilules contraceptives hormonales.
Ce n'est pas encore le cas en France?
Alors, pour du 100% digital, non. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Hein. Il y a peut-être des infos qui m'ont échappé, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur la fiabilité, sur le suivi. Alors, c'est vrai que les choses bougent puisqu'il y a des applications qui vont être référencées sur mon espace de santé. Et c'est vrai que pour accéder à cet espace de santé, et c'est normal, il faut vraiment montrer patte blanche sur la sécurité, la manière dont ça fonctionne, où sont hébergées les données. On est vraiment là sur de la donnée de santé privée, intime, donc on ne peut pas faire tout n'importe quoi.
Et il y a quand même aussi un problème de disponibilité de la donnée.
Oui, on a besoin de data et les startups qui travaillent sur ces sujets de santé ont besoin de données. Par exemple, on pense à Imagina qui a une solution pour préparer le périnée et pour éviter des périnées, les problèmes des périnées déchirés lors des accouchements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette donnée-là, elle n'existe pas, de savoir concrètement sur combien d'accouchements on a ce problème-là en France chaque année. Et c'est vrai que pour avancer, on parle aujourd'hui d'evidence-based medicine, mais pour avoir ça, ça veut dire qu'il faut que les données, elles existent. Donc, il faut qu'on commence à les collecter. Bien sûr, il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment, mais il faut qu'on puisse accéder à ça. Et aujourd'hui, les startups sont souvent en recherche de terrain d'expérience d'expérimentation, de données, de cohortes, voilà, pour pouvoir faire leurs preuves et avancer, parce qu'on leur demande à la fois d'être très innovantes, mais on leur demande aussi de faire des essais cliniques, ça demande beaucoup d'argent. En même temps, elles ne sont pas assez financées. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à mettre encore en ordre, mais on avance.
Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure au sujet des professionnels de santé, et en particulier des gynécologues. Il y a quand même un constat qui est extrêmement surprenant, c'est qu'on ne puisse pas, on ne se sente pas libre, en tout cas peut-être, de parler à son gynécologue de ses ennuis de santé sexuelle ou gynécologique de manière générale. À quoi c'est dû ça ?
Franchement, c'est une question d'éducation. C'est comme pourquoi la sextech n'est pas financée. C'est parce que, en fait, quand on parle de ces sujets-là, ça fait tout de suite écho à l'intime et tout le monde partage. En fait, tout le monde sait ce que c'est que la sexualité. C'est un sujet universel. Sauf qu'on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire entre ce qu'on vit et nos propres tabous et notre propre gêne pour pouvoir regarder la question et le sujet pour ce qu'il est. Et en consultation, ça va être pareil. C'est-à-dire que voilà, on a des cystites à répétition à chaque fois qu'on fait l'amour, ça veut dire qu'on a une activité sexuelle et que on n'ose pas forcément parce que derrière ça veut dire quoi? Ah oui, donc une femme qui aurait souvent des cystites et qui on penserait qu'elle a souvent des rapports et donc ça voudrait faire encore quelle projection elle aurait d'elle en tant que femme. Enfin, c'est tout ça qui se joue encore, malheureusement. Et puis, parce que souvent, on n'a pas le temps, on se sent brusqué, les consultations sont très rapides. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des applications qui travaillent. Comment on fait pour augmenter et améliorer la qualité du temps qu'on a avec le professionnel de santé, par exemple, en remplissant des questionnaires en amont pour arriver et avoir un peu plus d'infos, savoir même quelles questions on peut poser ou avoir des informations après. Et puis, une fois encore, si par exemple la question concerne le plaisir, il y a encore beaucoup de praticiens qui sont là et ils sont très axés sur le médical. Mais si on parle de plaisir, pour eux, ça sort de leur champ d'intervention et ils se sentent plus concernés. Ce n'est pas forcément des questions auxquelles ils ont envie de répondre. Et là, c'est tout l'intérêt pour nous, Sextech et Femtech, de parler avec eux et de leur faire connaître les solutions-là pour qu'éventuellement, ils puissent les conseiller en forme de relais dans un continuum de pratiques.
Il y a un rôle de ces applications pour faire le lien avec le professionnel de santé en dehors de la consultation, avant, après, comme tu disais. Peut-être permettre de passer au-delà de cette barrière qu'on a quand on est face à face, surtout dans le cadre d'un examen gynécologique.
Oui, exactement. Je pense que le numérique peut faire beaucoup sur l'amélioration du parcours patiente aux patients et aussi l'amélioration des relations en fait et de la qualité des relations soignants-soignés. Peut-être la première étape, c'est effectivement même d'oser se parler et de trouver les bons mots ou le bon mode de communication. Et c'est vrai que je pense que ça peut vraiment aider.
Tu seras fin juin à l'Université de la e-santé à Castres. Je crois qu'effectivement, c'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, qu'il y a un tronc sexualité et santé sexuelle à l'Université de la e-santé. Tu as une idée des messages que tu veux porter ?
Moi, je suis vraiment ravie parce que justement, ça nous permet de dire que la sexualité fait partie de la santé et qu'on devrait pouvoir aborder ce sujet-là de manière vraiment, apaisée. On sait à quel point c'est structurant et ça fait partie de notre équilibre. On est des êtres désirants. On voit qu'il y a encore énormément de sujets sur lesquels les gens souffrent, alors que ce soit des troubles sexuels, et chez les hommes comme chez les femmes, de questions de santé, des questions, en fait, encore une fois, de société. Enfin, comme la ménopause, c'est pas qu'un sujet... bien sûr que ce sont les femmes, mais on voit bien qu'il y a des impacts aussi dans leur vie, au travail. La fertilité, ça concerne les hommes aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont vraiment des sujets de société, de santé. Et donc, je trouve que c'est vraiment très, très chouette qu'on puisse venir et le dire, parce que c'est des secteurs qui ont besoin d'être encore mieux connus et reconnus et qui ont besoin d'être aidés. Et des sujets sur lesquels on a besoin, en fait, de créer un écosystème. Et cet écosystème, il se fait forcément avec des gens qui sont dans la tech, avec des gens qui sont des porteurs de projets, qui sont souvent des patients ou des patientes expertes, c'est-à-dire des gens qui ont une histoire personnelle et un problème à traiter, et aussi des médecins et des thérapeutes. Voilà, tout le monde, on doit tous travailler en même temps. Et donc, pour le faire, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se connaisse. Et c'est vraiment ça que je porterai et que je ferai à Castres, au mois de juin.
Super, ça sera le moment idéal. Tout le monde sera là pendant 2 jours. Et puis, j'espère que la diffusion du podcast avant permettra de se mobiliser pour venir en discuter. Merci beaucoup, Christelle.
Merci beaucoup, Nicolas.
Comme l'a dit Christelle au début de notre échange, l'association Sextech for Good ne s'intéresse pas seulement à la sexualité des femmes. L'association mène aussi un combat pour l'inclusion et pour une vision positive du corps et de la sexualité. Si ces sujets vous intéressent aussi, je vous invite à vous rapprocher de l'association Sextech for Good. Toutes les infos sont dans le descriptif de l'épisode. Et pour creuser le sujet du numérique au service de la santé des femmes, notamment de leur santé sexuelle, avec Christelle et avec d'autres intervenantes, Eh bien, rendez-vous à la table ronde qui sera organisée le 27 juin à l'Université de la e-Santé de Castres-Mazamet. À bientôt.